Cette balade audio vous est proposée par TheVisite.com. Téléchargez gratuitement plus de 2000 guides audio sur TheVisite.com.
Nous sommes au numéro 3 de la rue Saint-Guillaume, devant la maison à pans de bois appelée Ticoz. En breton, cela veut dire vieille maison.
Au XVIe siècle, des chanoines y logent. N'oublions pas que nous sommes dans le quartier de la cathédrale qui appartient à l'évêque. Les maisons à pans de bois sont typiques de la ville de Rennes. Mais regardez plutôt les détails qui composent Ticoz. En marron bordeaux, vous pouvez admirer les fameux pans de bois. En blanc cassé, c'est le torchis, un mélange de paille et de terre pour le remplissage des murs. Différents ornements décorent la façade. Sous les fenêtres du premier étage, des croix de Saint-André. Et au même niveau, complètement à droite, des brins de fougère avec leurs épis. Près de chaque porte d'entrée, deux statues en bois colorées attirent le regard. Celle de droite, c'est Saint-Sébastien attaché à son arbre, le corps transpercé par des flèches. Celle de gauche, Saint-Michel avec un arc et des flèches.
Habituellement, il terrasse un dragon. Là, on dirait qu'il vise Saint-Sébastien.
La posture des deux statues sert à créer un lien entre les portes des deux demeures. Et tout en haut, les greniers. Vous voyez la poulie à gauche ?
Elle servait à hisser les sacs de blé et autres denrées alimentaires. Continuons notre chemin dans la rue Saint-Guillaume. Puis ensuite, à gauche, rue de la Psalette.
Le mot Psalette désigne la chorale des enfants de chœur de la cathédrale.
Arrêtez-vous à l'angle de la rue de la Psalette et du chapitre où une autre maison en pan de bois vous attend. Pour accompagner votre trajet, Dominique Irvoas-Dantec, directrice de l'office de tourisme, retrace en détail l'évolution de ces demeures rennaises.
Nous avons la chance à Rennes d'avoir conservé de nombreux exemples de la construction à pans de bois. Des exemples qui vont du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVe siècle, qui caractérise la construction, d'une part, pourquoi construit-on à pans de bois ? Parce qu'il y a des forêts autour de la ville. C'est simple et logique. Et les éléments du XVe siècle, on les reconnaît par un fort encorbellement, c'est-à-dire l'avancée des étages par rapport au rez-de-chaussée. Alors, on en a des exemples, derrière la cathédrale, par exemple. Mais la tradition gothique dans la manière de construire un pan de bois va perdurer au-delà des limites strictes du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, sur Ticoz par exemple, on est dans la tradition gothique du pan de bois, avec ses poutres horizontales à chaque niveau, hein, qui sont striées, nervurées, avec des feuilles parfois aux angles, sculptées.
Au numéro 22,
vous avez devant vous une autre maison à pans de bois qui date de la Renaissance. Dominique Irvoas-Dantec l'évoque dans la suite de ses explications.
À la Renaissance, on va avoir deux temps. Première Renaissance, on garde encore les stries, les nervures, mais par contre on met des têtes, hein, des profils humains aux angles à la place des feuilles ou à la place de rien du tout quand la copie était moins chère. Et puis, autre temps de la Renaissance, c'est la seconde Renaissance en fait, lorsque la poutre horizontale va se doter d'éléments sculptés comme les rinceaux, les entrelacs, les têtes de griffons, les têtes de dauphins, enfin des grotesques, des choses qui n'existent pas vraiment en fait, hein, mais qui sont sculptées avec un parti coloré. Aujourd'hui, elles sont ravalées, restaurées, jolies à l'œil, conviviales en fait. Et c'est par exemple la maison de la Seconde Renaissance à l'angle de la rue de la Psalette et du chapitre. Hein, on la reconnaît très bien. Enfin, autre temps du pan de bois, c'est la façade qui, cette fois-ci, elle a perdu son avancée des étages. Elle est devenue toute plate. On n'a plus de sculpture sur la poutre horizontale. Ça devient un jeu de pans de bois. Alors, ce sont les hôtels des parlementaires, par exemple, sur la place des Lys, ou d'autres exemples dans la ville. Et puis enfin, le chant du cygne, hein, du pan de bois, c'est l'édit royal qui dit « il faut crépir ». Donc, on va masquer le pan de bois par un crépi, et c'est la fin de la construction à pans de bois.
Au secours ! Rennes brûle !
La ville s'embrase comme une mer de feu ! À plus d'un quart de lieue, les charbons tombent gros comme le poing !
Le 23 décembre 1720, les Rennais regardent la ville de bois se consumer. Le bilan est catastrophique. 850 habitations à pans de bois sont ravagées et l'on compte jusqu'à 8000 sinistrés.
Dieu est contre nous !
Dieu n'a rien à voir là-dedans ! Il paraît que c'est la faute d'un menuisier. Le maladroit a fait tomber sa bougie dans son atelier et le feu s'est propagé dans toute la ville en un rien de temps.
Les alentours de la cathédrale sont miraculeusement épargnés. Ce quartier résidentiel est alors habité par des merciers, une corporation aisée qui participe activement à la vie de la cité. Très vite, ils prennent des mesures pour éviter une nouvelle catastrophe.
Destruction des habitations vétustes. Le vide qu'elles laisseront empêchera le feu de se propager en cas d'incendie. Construction de pare-feu. Et enfin, le roi et le parlement signent un édit qui ordonne de crépir les façades.
C'est le dernier temps du pan de bois. Admirez encore cette maison à pan de bois coloré qui fait l'angle.
Celle-ci date de la seconde Renaissance. C'est facile, elle est reconnaissable aux têtes des personnages fantastiques qui ornent la façade. Vous continuerez ensuite la rue du Chapitre sur votre droite.
Au numéro 6, vous remarquerez l'hôtel de la Bourdonnée de Blossac du XVIIIe siècle. L'hôtel 18e de la Bourdonnée de Blossac abrite aujourd'hui le siège de la Direction régionale des affaires culturelles. Mais au XIXe siècle, il a vu naître le romancier populaire Paul Féval.
Grand rival d'Alexandre Dumas, Paul Féval a écrit 91 romans dont Les Mystères de Londres et Le Capitaine Fantôme, et le plus célèbre, Le Bossu.
N'hésitez pas, si les heures d'ouverture le permettent, à pénétrer dans la cour intérieure. Admirez la cage d'escalier sur votre gauche, ainsi que les anciennes écuries.
Bien, dirigeons-nous maintenant vers le cœur de Rennes où la pierre, le granit et le calcaire règnent en maître. Merci de continuer votre visite.